Salut à tous, bienvenue et sur le podcast de la République des Pyrénées, de l'éclair, des sports. On se dit des choses, je suis fatigué aujourd'hui, je suis fatigué par avance parce que ça, je sens que ça va durer des heures, on a tellement de choses à vous dire. Il s'en passe tellement. Déjà, il y a du monde autour de la table. À ma droite, là, lui par contre, il est plein d'énergie. Il y a Christian Saint-Pé, bonjour Christian.
Comme dirait Jean Fourré, hello ladies and gentlemen.
Wonderful. Oui, Jean Fauré, tu le dis de temps en temps, on l'entend dans la rédaction. Ce qui me permet de dire bonjour Jean Fauré.
Oui, bonjour les amis.
À tes côtés Jean Fauré, Jérôme Carrère derrière son plus beau masque FFP2.
Bonjour le Béarn, bonjour le monde.
Ce qui explique cette petite voix douce et feutrée. On va voir si elle est douce et feutrée peut-être. Grégory Le Thor, bonjour Greg.
Bonjour à tous et bonjour notamment au maître coq, Sébastien Piquironise.
Ah, effectivement. Le rebond. Eh ben voilà, tu l'as cherché, tu vas le prendre directement, ce rebond. C'est la dernière info qui vient de nous arriver. La confirmation, ce jour, ce milieu de journée, en pleine digestion, de la signature pour 3 saisons en tant que manager de Sébastien Piquironi. Greg, pas une surprise, hein, c'était le favori.
C'était le favori, c'est un double champion du monde qui débarque à la section. Il a été manager des moins de 20 ans sacrés en 2018 et 2019, avec notamment Reine Barca et Vincent Pinto, les fleurons de la Masia paloise. C'était le favori du président Bernard Pontenot, c'était la grosse cote, parce qu'il n'a été ni joueur professionnel, il est allé au plus haut en Fédéral 2, et il n'a jamais entraîné dans le rugby professionnel. C'est un homme de la formation, un as de la formation, une des valeurs sûres de la FFR. On ne l'attendait pas, et voilà, c'est la grosse cote, le pari du président Pontenot.
Oui, parce que là, dans ce que vous dites, il y a deux choses qui me font peur. Jamais entraîné au haut niveau, et première expérience de manager. Risqué, non ?
C'est un pari. Il faut bien commencer un jour. Il aurait pu relancer un Jacques Delmas. Il a fait le choix de lancer un technicien qui est sur des succès, qui est voilà, sur un cercle vertueux, qui a prouvé, qui a gagné, qui a fait gagner, qui a gagné avec une équipe qui n'avait jamais gagné. Moi, ça, je trouve que c'est un pari. Alors, c'est un avis très personnel, mais je trouve que c'est un pari qui mérite d'être tenté.
Est-ce que certaines personnes autour de la table sont plus dubitatives, va-t-on dire ?
Non, en tout cas, on peut dire qu'il est courageux, parce que je crois que le contrat débute à partir de la saison prochaine. Et bon, pour l'instant, il ne sait pas, après tout, s'il va prendre ses fonctions en top 14 ou en Pro D2.
Ah, ça, c'est peut-être une clause auquel on n'a pas accès. On le saura peut-être dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Je me tourne vers Jérôme. Est-ce que c'est d'un pari dont la section avait besoin actuellement ou de certitude ?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a un profil qui peut être intéressant dans le sens où à Pau, il y a pas mal de jeunes. On l'a très bien vu encore la semaine dernière en discutant avec nos confrères de France Bleu Limousin, figurez-vous, qui venaient de Brive en voiture, assez courageux, qui nous expliquaient que dans leur équipe, en gros, il y avait des Saïd Iresh, des Thomas Hakier, des mecs un peu vieux qui tenaient la baraque. À Pau, le capitaine, il n'y a que 23 ans, il s'appelle Luc Arré. Donc pourquoi pas prendre quelqu'un qui a géré des moins de 20 ans, qui est peut-être un peu plus à la page avec cette génération-là, et qui sait les manager, c'est pas forcément une idée bête. Après, c'est sûr qu'au niveau du vécu, on l'a vu, apparemment, ça fait pas peur à la section, puisque que ce soit Thomas Domingo, Geoffrey Lenpetit ou Paul Tito, c'est pas forcément des fonctions non plus qu'ils avaient eues en termes de management.
Christian.
Là où ça peut être une bonne pioche, c'est en matière de recrutement, parce qu'on peut espérer quand même que la section se trompera un peu moins et saura un petit peu plus se recentrer sur des valeurs montantes du rugby français. Et en la matière, telle que l'a décrit Grégory Le Thor, il a quand même son mot à dire. Il sait de quoi il parle, ce monsieur Piquironi.
Absolument. On l'a dit, c'est à partir de la saison prochaine, donc il y a quand même un maintien à assurer entre les deux. Est-ce qu'il va déjà distiller ses conseils ou pas, d'après ce qu'on en sait ?
Bon, je pense qu'il a quand même, fort à faire avec la fédération, où il était sous contrat, il faut le rappeler. La section paloise a obtenu sa libération, mais c'est une libération qui est prévue pour cet été. Il a encore des projets à mener. Alors il y aura peut-être un peu moins de pression, parce qu'il n'y aura pas de tournoi pour les moins de 20, il n'y aura pas de championnat du monde pour les moins de 20, mais il n'est pas manager des moins de 20, il est manager de toutes les équipes de France. Donc il a vraiment des projets de politique transversale à mener avant de passer le relais.
Et vous l'avez dit en citant l'exemple Jacques Delmas, une des explications aussi à ce recrutement, c'est que des managers de bons niveaux référencés. Il n'y en a pas non plus 50 sur le marché actuellement.
Bah, ils ont eu plusieurs, CV. Ils ont reçu, c'était un des finalistes du choix présidentiel, Xavier Garbajosa, qui est passé par La Rochelle, qui est passé par Montpellier, mais qui n'est pas sur des succès. Donc c'est un pari.
Jacques Delmas, ça ne parle pas.
Jacques Delmas, ça va moins fort, effectivement.
On revient sur l'actualité. L'actualité, c'est Lyon. Ce samedi, Jérôme, je crois que c'est vous qui prenez votre tricycle pour aller voir ce sympathique match à Gerland. Il va quand même falloir se remettre focus là-dedans parce que Brive a laissé des traces, j'imagine.
Oui, alors si je vous fais Thomas Domingo en conférence de presse, ça donne un œil un peu noir. Je suis très énervé, beaucoup de colère ce soir. Voilà, c'était les premiers mots de Thomas Domingo qui a donné l'ambiance. En gros, pas du tout satisfait de l'attitude de ces hommes. Quand on sait que pour un maintien, il faut être 100% focus, 100% ensemble, c'est pas ce qu'on a vu contre Brive sur la pelouse. Donc ça va être la première chose quand même à corriger. On verra demain s'il y a peut-être eu des choix aussi, des décisions un petit peu fortes, peut-être de, comme à Montpellier, mettre certains joueurs entre guillemets de côté, qui sont plus forcément concernés, qui sont peut-être en fin de contrat, ou pour x ou y raison.
Qui était particulièrement dans le viseur? Parce que lui, il va pas le dire, c'est normal, il est entraîneur, mais nous, comme
bah, y en, a
en
un
plus
qu'on
personne
a...
nous écoute, on peut balancer des noms. Qui est particulièrement
ciblé?
Il y
en a un qu'on a tous vu, ou toutes les personnes qui ont allumé leur télé, même ou quoi que ce soit, c'est Geoffrey Moïse qui est ressorti au bout de 17 minutes de jeu, qui a remplacé Nacho Caillès, qui avait mis au supplice les piliers droits de Brive. Chaque pilier droit qui passe entre ses dents, il est ressorti mastiqué. Geoffrey Moïse y rentre, deux pénalités sur mêlée, plus une troisième dans le jeu courant. Donc Thomas Domingo le coach quasiment immédiatement. Et au final, Nacho Caillès finit quand même le match en boîte en bas, et malgré tout, il n'est pas revenu sur la pelouse, donc c'était le plus évident. Et après, bon, mais les autres, pour nous, c'est un peu plus difficile à voir, mais eux, par rapport à ce qui s'était dit, comment ?
Ils se reconnaîtront.
Voilà, après, ce qu'on sait aussi, c'est qu'au match précédent, face à Clermont, il avait déjà pointé ces attitudes-là, et Pierrick Gunter, notamment, était sorti à la 42e minute après avoir savonné un renvoi. Il était rentré directement au vestiaire sans taper dans les mains des coachs ou des coéquipiers. Voilà, alors après, c'est un peu plus global aussi. En défense, on a vu quelques air défense encore. Bon, voilà, c'est.
Et puis, une grosse faillite de discipline, c'est ce que j'allais dire. Greg, vous aviez insisté là-dessus dans notre précédente édition.
Parce que sur ce match-là, c'était flagrant, 16 pénalités concédées. Après, ce qui est vraiment frappant, c'est que Brive en fait 16 aussi. Et que c'est. Si on a le sentiment que Pau est une équipe indisciplinée, il faut vraiment réaliser que depuis le début de saison, il n'y a que deux matchs où Pau a fait plus de fautes que son adversaire. Ce qu'il y a, c'est que la faute coûte très très cher à chaque fois.
Moi, ce qui m'a frappé sur ce match, bon, c'est pas nouveau à Pau, mais ce qui m'a frappé, c'est surtout ce manque de constance des Palois sur la rencontre, et avec un défaut qui est apparu à Bayonne 8 jours plus tôt, où ils avaient encaissé un essai en supériorité numérique. Et bien là, on a eu l'impression qu'en supériorité numérique, ils se croyaient peut-être arrivés dans ce match, peut-être aussi à la mi-temps, ils ont cru avoir fait le plus dur en repassant devant, et ça, c'est quand même assez inquiétant, ces trous d'air sur le plan, on va dire, de l'intensité. Et au contraire, on a vu cette équipe de Brive qui, elle, a joué le match pour le maintien tel qu'on pouvait l'envisager, quoi, le prévoir.
Ben moi, je ne suis pas du tout d'accord, Christian. Parce que Brive et Pau, franchement, quand on a vu le match, c'est un peu les mêmes équipes. C'est des équipes qui n'arrivent pas à maîtriser un match. Parce que sinon, elles ne seraient pas en bas du classement, elles seraient en haut, elles feraient railler pour le top 6. Donc des deux côtés, ça a été les 20 dernières minutes du match. Honnêtement, c'était hurrah rugby, ça sentait le chaos des deux côtés. La différence pour moi, c'est vraiment aujourd'hui dans l'état d'esprit avec des brivistes, on l'a vu même après le match. Ils savent où ils vont, ils savent qu'ils sont là pour le maintien, ils sont à 100% dedans, tous ensemble. Ils se sont remis d'aplomb après 6 défaites d'affilée. Résultat, ils restent sur 5 victoires en 6 matchs. Et la section, pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit. Voilà, ça papillonne un peu trop par moment. Mais c'est normal quand on est en bas de classement de ne pas maîtriser un match et d'avoir des trous d'air. Mais le problème, c'est ce qu'on en fait, quoi. C'est ce qu'on montre sur le terrain. Et là, contre Brive, ils ont clairement été défaillants dans cette unité.
Il y a quelqu'un qui lève la main dans le public, Jean.
Oui, moi je ne vais pas rentrer dans un débat technico-tactique que je ne maîtrise pas. Mais ce que je vois à cette section, c'est qu'on a changé les entraîneurs. Pour quel bilan? L'effet a été rapide. Il y a eu une victoire à Bayonne, arrachée un peu miraculeusement. Derrière, on retombe dans ses travers. Ils ont changé des joueurs. On a réinjecté des mecs qui étaient tricards. Ça n'a aucun effet. Donc, est-ce que le mal n'est pas plus profond? Quand on voit le calendrier qui arrive de la section, franchement, je pense que la section a vraiment va avoir du mal à s'en sortir. Surtout après les discours du dernier match derrière. Je pense que là, c'est ni tactique. Mais dans les têtes, je pense que tout le monde est très, très touché, que ce soit les joueurs qui jouent, ceux qui jouent pas, et le staff actuel.
C'est ce qui s'appelle une patate chaude. Qui répond tableau. À ça
Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont encore, au niveau comptable, en tout cas, ils ont encore leur destin entre leurs mains. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'ils ont, il leur reste 11 matchs, 7 déplacements, 4 matchs à la maison. Bon, quand on voit comme ils sont indigents au hameau, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle au final, puisqu'ils sont à 33% de victoire cette année, 3 victoires en 9 matchs au hameau, donc c'est super compliqué. C'est sûr que le mal est plus profond, je suis d'accord avec Jean, et Jérémy Davidson l'a souligné quand on lui a posé la question sur... sur ce qu'il était étonné en gros de voir Poula, il l'a souligné de manière un petit peu malicieuse peut-être en disant c'est vrai qu'ils s'y attendaient peut-être pas avec leur effectif, maintenant ils ont déjà changé leur staff, manière de dire qu'est-ce que vous voulez faire de plus à part changer le staff. C'est vrai que après c'est aux joueurs de se prendre en main et ça va être à eux de faire la bascule.
Très bien, maintien toujours, on va rester dans la thématique, je vous cache pas que c'est une thématique qui va revenir un peu cette saison. Alors j'ai le choix en fait, je peux regarder des deux côtés de la salle. On va commencer par le côté droit, on va rester en plein air, on finira en indoor. Le maintien, Christian, puisque c'est de vous dont il s'agit, et du Pau FC à Guingamp ce samedi soir. Franchement, on voit mal comment ils peuvent s'en sortir, très honnêtement.
Alors évidemment, si on regarde le plan comptable, c'est très très préoccupant, puisque depuis mercredi soir et le match en retard le match en retard de Chambly qui a donc arraché un match nul, eh bien, la barre du barragiste est à 6 points. Bon, vu la dynamique actuelle, c'est vrai qu'on s'imagine que dans quelques journées, ça va être la roue libre jusqu'à la fin de la saison, puisqu'il n'y aura plus rien à jouer et que la descente sera entérinée. Bon, la seule lueur d'espoir, c'est l'attitude qu'il y a eu samedi dernier, puisque la prestation a été, ma foi, valeureuse, avec pour une fois un bloc équipe qui ne s'est jamais désagrégé. Alors, attention, Pau a été meilleur que d'habitude. 3 a également été moins bon que d'habitude, ce qui fait que le match était équilibré et aurait pu très bien se solder par un match nul. Bon, après, il y a toujours les mêmes problèmes, hein, notamment dans la finition. Et c'est sûr que sans parvenir à marquer un but, difficile d'envisager une victoire. Bon, de toute façon, à commencer par ce match samedi à Guingamp, on va très vite être fixé. Bon, Guingamp, c'est un adversaire qui est quand même sur courant alternatif, qui pose pas mal de questions. Donc, si c'est un endroit, s'il y a bien un endroit pour gagner, pourquoi pas là-bas ?
Avec une autre question qui est revenue, cet homme en noir. Pour la première fois, vraiment, ils ont tiré dessus à boulet rouge, on va pas se le cacher. L'arbitre, il était mauvais ou pas, finalement ? Vous l'avez vu, ce match ?
Alors, à chaud, Didier Toulaud a été un petit peu... Enfin, a été véhément, peut-être un peu trop, parce que pour avoir depuis consulté des experts en matière d'arbitrage, quand il dit que... le palois n'était pas hors-jeu parce que le ballon est contré sur donc l'égalisation refusée à Oliro. En fait, le ballon est contré, mais il a à peine dévié. Or, un ancien arbitre m'a expliqué que pour qu'il soit remis en jeu, il faut qu'il y ait vraiment une déviation volontaire du ballon de la part de l'adversaire. Par ailleurs...
Ça, c'est pas technique.
Oui. Par ailleurs, ce qui a posé en fait le plus problème, on va dire, c'est cette décision sur la sortie du gardien de but face à Sabali, où là c'est vrai que c'est quand même fort de café que ça se solde par une faute à l'encontre du lutin prêté par le FC Metz. Bon, après, qu'est-ce qui se serait passé, personne ne le saura. On n'oublie pas non plus que Pau, 11 contre 10, n'a pas été en mesure de battre Nancy voici quelques mois. Donc bon, il y avait pas mal de dépit hein, au niveau des Palois, mais bon, l'arbitre, on ne peut pas non plus tirer à boulet rouge. Bon, on me certifie aussi qu'il y a une main de Scaramuzzi dans la surface paloise qui n'a pas été sifflée. Donc,
je sens que Cachon ne veut pas prendre position.
Autre composante du débat au Pau FC, là je me tourne vers un homme qui a le cœur qui saigne, puisqu'il a appris aujourd'hui le départ de sa mascotte, de son alter ego, Damon Bancé, donc qui quitte le Pau FC pour rejoindre, tiens donc, Bruno Irles.
Oui, le sorcier de la Turbie,
à Quevilly-Rouen Métropole.
En Normandie, c'est vrai qu'il ne jouait pas beaucoup, Damon. C'est un des héros de la montée, l'auteur à jamais, pour l'éternité, à jamais les premiers, comme disent nos amis marseillais, du premier but du FC Pau en Ligue 2, un golasso, comme disent nos amis espagnols, contre Rodez. Mais il était clairement tombé en disgrâce aux yeux de Didier Toulaud, doublé par Erwin Coffey, et puis il n'a jamais pu reprendre sa place, donc il fait le choix du plaisir, le choix du jeu, descendre d'un niveau, mais exercer de nouveau son métier.
Ce qui donne un mercato bizarre quand même, hein, avec il y a plus de 3 départs pour 2 arrivées, c'est ça, si mes comptes sont exacts. Ça donne pas vraiment l'image d'un truc bien posé, bien serein, bien rasséréné.
Bah, disons que il y a un défenseur qui est éventuellement attendu. On sait qu'il y a encore la possibilité d'avoir un cinquième et dernier prêt français. Bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Pau est dans les plus petits budgets de Ligue 2. Donc, pour retoucher l'effectif, et, vu que la masse salariale est encadrée, et vu la conjoncture actuelle, bien, il a fallu dégraisser pour pouvoir recruter. Et on se souvient que la semaine dernière, Didier Tolo a remercié le président de Sion, qui prend en grande partie le salaire du Brésilien Itetinga, sans quoi il n'aurait pas pu... venir à Pau pour terminer la saison. Donc c'est un paramètre auquel il faut en tenir compte. Et bon, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, il fallait en tout cas faire bouger les lignes. Pau a tenté, alors c'est plus ou moins aussi des paris, hein, on a entendu ce terme tout à l'heure par rapport à la section, mais on verra dans quelques mois ce que ça donnait.
Mais c'était pas un peu déséquilibré l'effectif? C'est vrai qu'il y avait pas mal de bons joueurs derrière, notamment en défense centrale, et il y a quelques postes après qui étaient un petit peu désertés quand même.
En tout cas, là, le rééquilibre ne se fait pas dans ce sens, puisque c'est pas un défenseur central, mais c'est un latéral qui s'en va au niveau défense. Et après, il y avait quand même aussi pas mal d'attaquants qui ne jouaient pas. Hein. Bon, Yankouba Jarjou est parti à Cholet, mais vous avez par exemple Idriss Abba qui joue très peu. Vous avez le jeune Enger qui joue pas du tout. Bon, il y en a ouais, le dernier renfort arrivé au mercato donc, de cet été, c'était Tube, le Sénégalais qui ne joue pas non plus beaucoup. Bon.
Mercato. Bon, voilà.
Bon, bon tableau.
Voilà. Mercato toujours, c'est un club où il y a toujours du mercato, c'est l'Élan Bernay qui nous enchante à ce niveau-là. Jean, plus sérieusement, depuis le départ de Serge Krefker, vous étiez un peu en
orphelin de Belgitude.
Vous allez en retrouver une petite dose avec l'arrivée de Manu Lecomte, qui remplace Justin Bibbins, qui remplaçait lui-même Shannon Evans. C'est un club qui va peut-être devenir américain, mais en attendant, joue aux poupées russes.
Oui, un club qui risque de devenir américain, mais qui est le club de Ligue nationale de basket, de LNB Pro A et Pro B confondu, avec le moins de joueurs américains dans l'effectif, puisqu'il n'y en a plus qu'un, Vincent Ford, qui est francophone. Donc effectivement, Emmanuel Lecomte qui a débarqué à l'élan mercredi, donc le petit meneur belge qui va remplacer Bibbins, qui lui est arrêté au moins 6 semaines, mais je vous l'annonce, on ne le verra plus de la saison, parce que sa blessure, sa grosse entorse à la cheville est quand même très sérieuse. Je ne sais pas s'il y aura une opération prévue derrière ou pas, mais et donc déjà, on ne sait même pas si la saison va se finir, mais je pense que la sienne est terminée. Bref, Emmanuel Lecomte est arrivé mercredi, il arrive de Francfort, il a joué 5-6 matchs cette année avec Francfort, il a l'air bien en canne, je l'ai vu s'entraîner ce matin. Ça peut être une bonne petite surprise, avec comme principal bémol le fait qu'il n'a jamais été meneur numéro 1. D'une équipe, d'une grosse écurie, dans un grand championnat. Donc ça, est-ce qu'il va être capable de franchir le palier? On va le savoir très vite, dès demain, face à Chalon-Reims. Et la deuxième, donc, c'est physiquement, est-ce qu'il est prêt à encaisser 25, 30, 35 minutes de jeu dès demain soir, sachant que...
Samedi soir.
Dès samedi soir. Ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte.
Il n'y aura pas le choix de toute façon, hein, parce que non. Là, l'encéphalogramme est plat pour l'élan depuis quelques semaines maintenant, même si les matchs se jouent au compte-gouttes. La série, elle est là, elle est douloureuse. Il faut vraiment l'inverser.
Oui, il faut l'inverser pour plusieurs raisons. Évidemment, 5 défaites d'affilée, ça fait beaucoup. Donc, Bibbins, 4 matchs, 4 défaites. Mais la série est de 5. Donc là, l'élan est 14e. Ils n'ont que 2 victoires d'avance sur le premier non relégable, on va dire, si la saison allait au bout. Et parmi eux, Chalon-Reims, qui a 9 matchs, une seule victoire, qui était allé gagner au Mans, c'était fin octobre. Depuis, ils ont tout perdu. Ils sont sur une série de 4 défaites. Et donc l'élan aurait une très bonne idée de mettre cet adversaire à trois matchs derrière, puisque Boulazac est dernier avec 0 victoire. Donc ce serait quand même confortable avant d'aller à Limoges la semaine prochaine, évidemment.
Oui, donc si ça ne gagne pas samedi, vous arrachez votre siège et vous le jetez sur le parquet. Donc, si je comprends.
Non, j'arrache rien du tout, mais peut-être quelques cheveux. Mais effectivement, il faut absolument que les Palois produisent autre chose que ce qu'on a vu depuis 3 matchs pour se défaire de Charles Lorenz, qui lui aussi arrive avec un nouveau meneur de jeu, meneur arrière, bien connu dans le championnat français, c'est Dominique Walters, qui avait fait les beaux jours de Nanterre, notamment il y a 2 ans. Sacré pistolero qui tourne à plus de 50% à 3 points en carrière. Donc la défense paloise est avertie. Elle devra se méfier donc de ce Walters et surtout de Travis Leslie. Okay. Celui qui jouait sur courant continu l'an dernier à l'élan, qui était blessé à peu près match sur deux, voire un mois sur deux. Et qui là, c'est l'artilleur numéro un de Châlons-Reims. Il a fait un très bon match la semaine dernière face à Levallois-Boulogne, pardon, puisque Châlons-Reims menait de 20 points à la mi-temps. Et ils en ont pris 30 en deuxième. Mais pendant 20 minutes au moins, Leslie a fait la chanson. Et donc l'élan devra se méfier aussi de Leslie, évidemment.
Une inconnue qu'il y avait, c'était Nico De Jong. Qu'en est-il ?
Nico De Jong, alors Nico De Jong, lui,
c'est
il a
un
pas
peu
fini.
La revue médicale de cette semaine.
Voilà, lui, c'était le ménisque pendant plusieurs semaines. Il est revenu face à Bourg. Et au milieu du troisième quart-temps, patatras, le mollet. Bip, allez, on sort. On ne l'a plus revu derrière. Du coup, ça a un peu coûté aussi. C'est un des éléments qui a fait que l'élan a craqué en fin de match. Il a été au repos, aux soins pendant une dizaine de jours. Et il a repris l'entraînement collectif avant-hier. Donc, il sera sur le terrain samedi soir. Dans quel état physique, à quelles conditions, là aussi c'est l'énigme.
Et le contexte général, ils sont hermétiques à tout ce qui se dit, les incertitudes
Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Oui, forcément, le contexte de reprise du club par le consortium américain dont on a beaucoup parlé ces derniers jours.
Counterpoint Sports Group.
Yes, exactly. Fait énormément causer. Alors Laurent Villa a dit que le groupe en a parlé évidemment, mais qu'ils sont hermétiques à ça, qu'ils se concentrent sur le jeu. On n'attendait pas autre chose de la part du coach, qu'ils se concentrent sur le terrain évidemment et qu'il n'allait pas dire que ça perturbe les joueurs et lui-même, tous ceux qui sont en fin de contrat, qui ne savent pas ce qui va se passer en suivant. Ça c'est clair. Après oui, ça grenouille beaucoup, ça en coulisses, dans les couloirs, dans le palais, hors du palais. Pour vous le dire, on ne parle que de ça. Donc il y a les discours de façade, les discours où tout va bien, où c'est une bonne chose pour l'élan. Et puis il y a tout ce qui se trame en souterrain, avec pas mal de, on va dire peut-être d'actionnaires minoritaires d'ailleurs qui sont réunis hier soir et qui font pas mal de, qui essaient de faire pas mal de choses pour savonner un petit peu la planche aux repreneurs et essayer de discréditer ce projet qu'ils ne connaissent pas vraiment non plus. Mais certains préfèrent mourir avec leurs petites idées plutôt qu'essayer de survivre avec celles des autres. Puisque si rien ne se passe à l'élan, le club court à sa perte. Ça, on le sait. François Bayrou l'a encore dit la semaine dernière.
D'ailleurs, ça progresse sur la structuration. Il y a des rendez-vous fixés, des choses.
Non, la structuration, je ne suis pas au cœur de. Je n'ai pas mon accès, mon pass accès.
Mais si, vous l'avez. Vous
mais
pouvez
non,
pas
je
ne l'ai
pas. Le badge pour accéder au bureau de monsieur le maire, ça suit son cours. On a pu entendre, on a pu lire une interview de Rick Pitino dans l'équipe lundi. On a eu. Comment il s'appelle monsieur Huss, Greg Huss, qui a parlé donc on a, dans nos colonnes en fin de semaine et puis sur France 3 en milieu de semaine. Les Américains sont disers, ils expliquent ce qu'ils veulent faire. Donc il y a le projet sportif, cette tokenisation qui fait beaucoup causer, sachant que ce ne sera qu'une part variable de l'investissement fait en Béarn, et puis tous les projets qui se greffent en parallèle, de l'immobilier, un hôtel, un resto, parc d'attractions, académie, que sais-je. Les Américains ont l'intention de faire de grandes choses à Pau. Ils annoncent. Est-ce que ça ira jusqu'au bout ? À l'heure actuelle, on ne peut pas le dire. Ça consulte à tout va. Voilà, ce qu'on sait, c'est que les choses bougent et c'est une bonne chose, qu'il arrive.
Bon, moi, en tout cas, j'ai eu aucun projet, aucune proposition de rachat pour ma maison jusqu'à présent. Donc, ça ne bouge pas tant que ça, Jean. Vous êtes un imposteur. Maintenant, vous allez sortir vos tokens, messieurs, ou vos bitcoins, selon ce que vous voulez, car c'est l'heure des pronostics. Avec encore des règlements de compte, il me semble, hein, parce qu'il y a eu des annonces la semaine dernière, notamment une bouffée positiviste sur la section paloise. Et voilà. Et puis finalement, non. Donc je me tourne vers le plus gros échec de cette semaine dernière, un bonus offensif contre Brive, Jean.
Oui, j'avais annoncé un bonus offensif. Je m'étais laissé griser par les propos archi-positifs de mon voisin Jérôme, qui m'avait un petit peu quand même influencé. Donc j'avais donné sa chance à la section. Donc je récidive ce week-end avec de nouveau le bonus offensif, mais cette fois dans le camp lyonnais. Je vous annonce une section en perdition totale dans le 69. Voilà, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les discours des uns et des autres, et face à une équipe de Lyon qui est quand même beaucoup plus solide que Bayonne et que Brive, je pense que la section va énormément souffrir et pourrait manger chaud du côté de Gerland. Pour ce qui est du Pau FC, là je vois pas trop les motifs d'espoir du côté de Guingamp. Au mieux un match nul, au mieux alors vraiment... Mais ça sent quand même la défaite et la fin des dernières illusions, mon cher Christian. Quant à l'élan, quant à l'élan, sur une note positive, après 5 défaites d'affilée, s'ils perdent ce week-end, ce serait quand même une petite crise sportive. Donc j'ose espérer qu'ils vont arriver à gagner. Un match de ratagasse, pas forcément terrible, pas très beau, mais une victoire de 5-6 points, voilà, pénible, mais vitale.
Ces pronostics vous étaient offerts par les pompes funèbres Jean Fauré. Ensuite, donc.
Là, on peut envoyer le jingle de fer, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? C'est terrible.
La petite escroquerie hebdomadaire de Jérôme Carrère, donc peut-être. Ouais, on commence par quoi? Par Gerland? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Gerland, ce Lyon section?
Moi, j'ai quand même envie de croire à un petit sursaut, alors je vais parier sur une petite défaite. On aura quand même défaite, mais petite défaite.
Sursaut, c'est une défaite.
Mais c'est quand même. Ben quoi, un petit sursaut quand même déjà. Par rapport à mon collègue qui mise sur un bonus offensif lyonnais, c'est quand même beaucoup mieux.
Donc, bref, bonus défensif palois, c'est ça?
Un petit bonus défensif palois avec une victoire de Lyon 27-24. Voilà, Lyon qui a eu du mal à battre Montpellier d'ailleurs assez récemment, 24-20 battu. Donc voilà,
c'est
j'y crois.
C'est un signe. Greg, vous y croyez? Je pense qu'il y un petit point.
Et du coup, le reste, j'ai pas le droit de
mettre. Ah si, pardon, c'est vrai.
Eh bien, Guingamp, moi je vois le POFC arracher un match nul valeureux, un partout, avec un but de Cheikh Sabali qui revient un peu dans la danse. Et pour l'élan béarnais, j'ai envie d'y croire avec Jean. Je vois bien une petite victoire plus 5 points, effectivement, un match un peu sale, un truc. Mais bon, avec une victoire au bout.
Alors moi je pensais que j'étais hors concours parce que la dernière fois j'avais donné exactement le bon résultat de la victoire de Bayonne. De Pau à Bayonne, donc c'était. Voilà. Mais bon, si je dois participer encore, malgré l'absence totale de suspense, ça sera un 19-19 pour la section à Lyon et un partout pour le Pau FC avec un but de Sabali à Guingamp.
Et pour le Portes aussi, un match nul.
Portes, je sais pas, parce que d'ici samedi, il y a 8 joueurs qui peuvent arriver, 9 qui peuvent partir, 3 blessés, 4 retours, donc c'est vraiment très très difficile.
Ah, c'est dur de pronostiquer, je suis d'accord avec vous. Christian?
Il y a un rayon de soleil dans cette salle, donc je vais pronostiquer, je fais confiance à Jean, une victoire Elan qui a besoin de se relancer. Je vais cocher double pour le POFC avec donc un match nul et pourquoi pas une victoire parce que j'ai pas envie hein, que cette saison se termine en roue libre. Donc voilà. Et puis la section une défaite à Lyon, peut-être sans bonus, sans qu'il y ait forcément un gros écart, mais en tout cas pas de bonus. Et je vais vous donner un pronostic concernant les amateurs. Je miserai une pièce sur nos représentants de Bières qui jouent en Coupe de France là, le 6e tour contre un club de Régional 1. Eux ne sont qu'en Départemental 1, mais ils nous ont habitués à des exploits depuis le début de la saison. Donc allez Bières et puis rendez-vous pour le week-end suivant pour le 7e tour.
Christian, il est facile, on va faire ça nous aussi. Oui, au rugby, je vois bien une victoire ou une défaite, je sais pas trop. Il faut trancher, Christian.
Le match nul n'est pas à exclure, vous l'aurez compris. C'est l'heure de conclure. Je vous l'avais dit, ça serait long. Hein. C'est l'heure de conclure ce nouvel épisode du podcast. On se dit les choses. Merci de nous avoir supportés. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne tempête ce week-end, un bon reconfinement et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.